J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Michaël Bergeron et Éric Leblanc. Depuis 2002, Michaël Bergeron a été journaliste, animateur ou réalisateur pour Voir, Radio-Canada, Télé-Québec et plusieurs médias indépendants. Il est maintenant chroniqueur au quotidien La Tribune. Il collabore aussi avec différents projets littéraires et a publié deux essais, La vie en gros, sur la grossophobie et la diversité corporelle, et Tombée médiatique, sur le milieu de l'information. Éric Leblanc est auteur, artiste multidisciplinaire et travailleur culturel. Il a dirigé pendant plusieurs années les collectifs littéraires Exondé et l'Escouade créative. On a pu le voir sur les scènes des festivals Québec en toutes lettres, le Mois de la poésie, OFF Festival de poésie de Trois-Rivières et Festival de poésie de Montréal. Il a publié en février 2020 son premier recueil de fiction chez Hamac, Le bleu des garçons. Dans le cadre de sa résidence de création à La Bordée, il pilote Full avec son duo d'artistes Atwood, un projet alliant photographie, théâtre, littérature et numérique, explorant la part de théâtre qui habite le quotidien. Comme première question, Michaël, je me demandais quel était ton rapport à la poésie en général.
Bonne question. J'aime beaucoup la poésie, je vais le dire. Je pense pas que je suis la personne qui en consomme le plus. Tu sais, quand je regarde ma bibliothèque, par exemple, elle est majoritairement remplie de bandes dessinées et d'essais. Ce sont les deux genres que j'aime le plus. Mais j'ai quand même quelques recueils de poésie. Je vais à beaucoup de... En fait, je préfère la poésie live. J'aime beaucoup aller voir la poésie dans les événements, dans les soirées littéraires. C'est vraiment là, je trouve que je capte le souffle du poète ou de la poète. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très personnel, en fait, dans la poésie. Donc, j'ai l'impression que quand j'entends la personne qui écrit le texte, ça me donne une couleur que des fois, tu n'as pas toujours simplement en lisant. Puis, j'aime avoir ce souffle-là. J'aime avoir l'émotion dans la voix. J'aime sentir le rythme aussi. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup vivre live, que j'aime ressentir. Et j'aime qu'elle me brasse, j'aime qu'elle me fasse vivre des émotions. Donc moi, c'est ce que j'aime de la poésie. Tu sais, je sais qu'il y a une poésie qui est très intellectuelle, puis ça peut être super intéressant, mais je veux qu'il y ait une émotion en arrière. Je veux qu'on essaye de toucher le public. Je veux qu'on essaye de toucher le public. C'est peut-être pas tout le public. Des fois, on va toucher juste quelques personnes, puis c'est bien correct avec ça, mais j'aime qu'il y ait une intention de toucher et de contact, et non pas juste un jeu intellectuel. Puis, je vous dis, tant mieux pour les gens qui aiment ça, mais moi, j'aime qu'il y ait une espèce de j'aime qu'il y ait une émotion. J'aime ça quand il y a quelque chose de brut ou sauvage, un peu punk. Fait que moi, c'est ce que j'aime de la poésie, ce qui vient me brasser dans mes émotions.
Éric, en tant que poète et littéraire, est-ce que tu aimerais rebondir là-dessus?
Ben oui, ben en fait, j'aurais voulu demander à Michaël, justement, c'est quoi les émotions qu'il brasse, mettons, qu'est-ce qu'il vient le chercher particulièrement souvent quand il écoute la poésie?
Ben, moi, j'aime être surpris. J'aime quand quelqu'un, par son vécu, ses émotions, parce qu'il a envie par ses intentions aussi, vient de brasser quelque chose que j'attendais pas. Donc, qu'il me surprenne par la direction qui est prise, par l'émotion qui est véhiculée. Peut-être parce que moi, peut-être j'ai pas la même émotion face au même événement, ou pour me faire découvrir une émotion que j'aurais pas su capter avant. Donc j'aime beaucoup être surpris, puis bon là ça peut être très large cette surprise là, me remettre en question aussi, me faire découvrir des facettes que j'avais pas vues. Donc j'aime beaucoup être brassé, puis je trouve que la poésie c'est un excellent véhicule pour ça.
Ben, j'aime beaucoup, j'aime ta manière de voir la chose, puis c'est drôle parce que ça rejoint aussi ma manière, mettons, par exemple, moi, quand j'en compose, quand j'en écris, tu sais, pour moi, la poésie, c'est souvent un travail d'excavation, tu sais, je vais plonger à l'intérieur soit d'un sujet qui m'intéresse ou de moi-même, puis je vais vraiment aller chercher, puis ce que j'aime le plus faire ressortir quand, une fois que le travail est fait d'excavation pour créer le poème, c'est les choses qui m'ont surprise moi-même souvent, mixées avec mes obsessions là aussi, souvent à force de creuser sans arrêt, je vais toujours sortir les mêmes roches, puis à un moment donné, faut que je me dise, ben ils ont quelque chose à dire sur moi, ces obsessions-là. Fait que moi, j'aime bien aussi, autant quand j'en consomme que quand j'en écris aussi, cette idée de surprise-là, de remise en question aussi, puis de découverte de moi autant que de l'autre. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que découvrir un poème qui fait « aïe, je savais pas qu'on pouvait se sentir comme ça ». Puis souvent, ça vient chercher une cloche peut-être que j'avais jamais sonné chez nous. Là.
Ben oui, puis moi, je trouve ça justement intéressant de dire « ah ouais, tu sais, c'est ça, cette espèce de… » comme un éveil. « Oh, OK. » Puis je sais pas si… ça t'arrive de ton côté, mais bon, moi, des fois, quand j'écris, je suis moi-même surpris parfois par ce que j'écris ou par l'émotion que je découvre même en moi-même. Puis je suis comme, oh, OK, je m'en vais là, puis je m'attendais pas à aller là, que ce soit dans mes chroniques, quand je commente l'actualité ou quand des fois, j'essaie de faire des trucs qui sont un peu plus libres, mais des fois, je suis surpris par moi-même où je m'en vais avec mes mots. Je sais pas si ça t'arrive aussi de faire, oh, OK.
Ben oui, absolument. Puis c'est drôle parce que dans mon recueil de fiction, Le Bleu des garçons, c'est une des choses qui m'est arrivée à la fin. Je me suis rendu compte que ce livre-là tournait beaucoup autour d'un pot dans lequel j'avais peur de plonger. Puis c'est drôle parce que après que j'ai écrit ce livre-là, je lève les yeux parce qu'il est au-dessus de ma tête. Vous le verrez pas parce que c'est un balado. Mais tu sais, c'est drôle parce que ça m'a tellement remis en question. Ça m'était jamais arrivé, mais ça l'a amené une rupture. Ça l'a amené un changement drastique dans ma vie, ce livre-là. Parce qu'en arrivant, en mettant le point final, j'ai fait, mon Dieu, ça m'a brassé à ce point-là. Puis ça m'a permis de sortir des choses que je m'attendais pas de moi-même, en fait.
Je trouve une belle émotion, ça. Ben là, après ça, j'ai envie de dire peut-être un peu désolé de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est pour le bien au final de tout ça, mais je trouve que ça reste une belle émotion, ça, cette espèce de... C'est comme un nouveau souffle, puis je sais pas, il y a quelque chose de libérateur qui fait du bien, même si des fois, il y a quelque chose de douloureux là-dedans, il y a quelque chose qui fait du bien quand même après tout ça.
Ben oui, puis... J'avais envie aussi de te renvoyer la question aussi, tu sais, par exemple, tu dis, tu découvres tout ça, puis tu dis, tu consommes plus de poésie que t'en écris, mais je sais que t'en écris, puis dans tes chroniques, justement, tu sais, je trouve qu'on en retrouve beaucoup aussi, là, ce travail du mot-là est très important, puis on le sent. C'est qu'est-ce que tu dirais qui est la part de poésie qui s'inscrit dans ton travail de journaliste, de recherchiste aussi?
Bonne question. J'essaie de mettre du rythme dans mes textes. Moi, c'est quelque chose que je trouve super important, même quand je suis en train d'analyser le budget d'une ville, qui peut être très drabe là, comme sujet, on s'entend. J'essaie de mettre un rythme quand même là-dedans. Je crois vraiment profondément à l'importance de l'émotion. Puis bon, j'en parlais justement, c'est ce que je recherche quand je consomme la poésie. Puis même quand j'écris justement sur des sujets qui sont parfois très drabes, je trouve ça vraiment important d'y mettre une part d'émotion, ou du moins de, je sais pas, de mettre une espèce de bon, je trouve que c'était pas peut-être pas la façon de le dire, mais comme une espèce de notre essence d'humanité, tu sais. Je vais reprendre cet exemple-là, mais un budget municipal, c'est pas juste des colonnes de chiffres, ça a un impact dans la vie quotidienne. Donc, j'aime aller chercher ce côté-là. Donc, OK, donc oui, il y a un budget, mais quel impact ça a après sur le logement social? Puis le logement social, bien, ça a un impact sur la vie des gens, sur la misère des gens, donc sur si une personne va en arracher ou non pour survivre. Ça a un impact aussi sur notre urbanité, donc comment on se déplace dans la ville, ça a un impact aussi sur notre vie. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de... Je trouve que c'est important, en fait, de revenir, je trouve, à ce que moi, je trouve, les racines, c'est comment nous, on vit, puis les émotions qu'on vit, puis comment on fait pour traverser à travers notre vie, en fait. Donc, moi, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, puis j'essaie toujours de garder cette espèce de racine émotive-là dans mes textes. Donc, tant mieux s'il peut y avoir une forme de poésie là-dedans. Mais j'essaie, moi, en fait, c'est que j'essaie d'y mettre un peu d'humanité.
Ben, c'est ce que j'étais pour dire. C'est pour moi, une des définitions que j'aime beaucoup de la poésie, puis la poésie aussi à son sens large, des fois, qui dépasse les mots, qui va vraiment, tu sais, maintenant, la poésie est j'étais pour dire galvaudée, là, mais je pense qu'elle est utilisée à plusieurs sauces, souvent à bon escient, mais pas tout le temps. Je trouve que c'est cette part d'humanité-là, des fois, qui va se dégager quand on touche à quelque chose de très humain, même quand on débroussaille, comme tu dis, des fois, des chiffres, tu sais, mais de ramener les humains qui étaient là, puis de redonner toute cette vie-là à cette matière-là, je trouve que c'est là qu'on retrouve un peu de cette poésie-là. Là.
Oui, puis tu sais, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec les chroniques, puis j'imagine que tous les artistes pourraient sûrement le dire aussi, mais à un moment donné, le trait personnel devient très universel parce que, en fait, dès qu'on parle de nos émotions, qu'on parle de nos dilemmes, qu'on parle de ce qui nous tracasse, mais aussi de ce qui nous, je sais pas, ce qui fait palpiter notre cœur, ben, je pense que tout le monde le vit d'une façon peut-être très personnelle, mais ces émotions-là, on les vit tous et toutes. Donc, je pense que oui, c'est super universel, en fait, ce qui est très personnel. Donc, je crois beaucoup en cette puissance-là, de cette espèce d'intimité qui devient, en fait, universel et qui touche tout le monde.
Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur cette idée, sur les émotions. Et parce que lors d'une conversation précédente, cette idée-là qu'on n'aime pas ce qui est trop intellectuel était revenue aussi, d'associer une maîtrise de l'écriture avec ce qui est intellectuel, ce que je trouve pas nécessairement juste. Puis je repense souvent à ce professeur que j'ai eu qui disait que la littérature, c'est des tripes. Qu'on met sur une table et qu'on regarde, qu'on triture avec son intelligence. Et donc, ce que j'en comprends, c'est que écrire, c'est aussi porter un regard qui peut être compassionnel, mais qui peut aussi être critique sur des émotions. Puis je voulais qu'on revienne là-dessus, sur ce regard porté sur les émotions. C'est pas parce qu'il y a un travail, dans le fond, justement, là, de modelage des émotions. On les présente, on les habille, on les met en scène quelque part dans l'écriture, ces émotions-là. On les présente pas brutes.
J'aime beaucoup que tu amènes cette dichotomie-là, en fait, qui existe, puis qu'on place souvent là, les émotions, l'intellectualité. Puis c'est vrai que dans la poésie, puis dans le travail poétique, littéraire, il faut pas autant, des fois, les séparer, mais se rappeler du lien qui existe entre les deux. Puis je trouve que c'est vraiment important ce que tu ramènes. Puis j'ai aimé que tu dises, on met nos tripes sur la table, mais je vais faire un jeu de mots peut-être malheureux, mais c'est aussi un trip, la poésie, tu sais, c'est triper, c'est s'amuser avec les mots, c'est s'amuser, tu sais, puis des fois, pousser loin, autant l'intellectualisation que pousser loin les émotions, que pousser loin, tu sais, c'est aller au bout de quelque chose dans plein de sens du terme. Puis en effet, tu sais, une fois qu'on a sorti ces idées-là, ces émotions-là, effectivement, il faut les rationaliser jusqu'à un certain point, tu sais, il faut les amener pour qu'elles soient intelligibles aussi pour ceux qui vont vouloir se plonger dans notre univers et tout ça. Non, je trouve que c'est effectivement une dichotomie qu'on a rapidement tendance à faire, mais il faut se souvenir que les deux sont intrinsèquement liés.
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, de l'équilibre à aller chercher. Parce qu'effectivement, si c'est purement émotif, qu'on tombe dans le cliché du cri primal, bon, à un moment donné, je pense que ça reviendrait souvent au même. Puis en même temps, si ce n'est qu'un pur jeu intellectuel, je pense que là, on manque un peu de cette émotion dont on parle depuis tantôt. Mais je pense que l'idée, c'est de trouver cet équilibre-là. Donc effectivement, il y a un processus émotif qui on va essayer de rendre intelligible ou accessible grâce justement à un travail qui est plus intellectuel, mais des fois aussi c'est l'inverse, c'est une espèce d'idée très abstraite qu'on veut réussir à rendre concrète grâce aux émotions. Et donc je pense que les deux effectivement se communiquent ensemble, puis c'est trouver l'équilibre qui va faire en sorte qu'on va réussir à passer le message de la façon la plus, là, je mets des guillemets, mais efficace, mais bon, efficace dans le message qu'on veut transmettre, efficace dans la façon de pouvoir le comprendre, efficace dans sa façon de se disperser aussi dans le public, mais c'est sûr qu'il faut cet équilibre-là entre l'émotion et l'intellectuel. Puis moi aussi, je pense pas qu'il faut les diviser ou les prendre comme si c'était en opposition. Il faut au contraire trouver une façon de les marier ensemble. Puis je pense que c'est là qu'il y a une force qui prend. Puis il me semble que l'art, c'est justement ça, c'est de réussir à trouver cette force-là entre l'émotion et l'intellectuel. Puis c'est lorsque les deux réussissent à bien se marier, à se combiner, que là, on tombe devant quelque chose qui a une force puis qui a une puissance.
Puis je trouve que c'est tout cet équilibre-là que tu as bien ciblé, Michael, tu sais, qui montre le métier, en fait, tu sais, ne pas oublier aussi que la poésie est un métier, tu sais, c'est savoir tricoter ces émotions-là pour les amener à l'autre.
Mais j'ai l'impression qu'il faut faire la distinction aussi entre ce qui est intellectuel et ce qui est jeu formel. Parce qu'il y a une tentative, parce qu'on peut trouver un plaisir intellectuel dans le jeu formel sur le langage, Mais est-ce qu'une émotion n'est-elle pas elle-même intellectuelle? T'sais, quand on dit, quand on oppose le cœur et la raison, on emploie une métaphore. Mais en fait, les émotions, on les vit dans notre tête aussi. Dans le fond, quand on dit qu'il faut travailler le texte avec son intellect ou travailler ses émotions avec son intellect, c'est cette idée d'avoir la capacité de se mettre à distance et d'observer nos émotions comme si elles étaient une matière à création.
Mais ce que je trouve intéressant, peut-être, Simon, c'est que tu sais, je pense qu'on a tendance des fois à voir comme un jeu intellectuel comme une forme de complexité automatique, tu sais, comme si la complexité est automatiquement intellectuelle et quelque chose d'intellectuel est automatiquement complexe, alors que pas du tout. Même que la simplicité est excessivement difficile, que ce soit en poésie ou en illustration, le minimalisme, la simplicité, c'est tough à être succinct. C'est vraiment tough. C'est même là qu'on voit parfois ce talent-là. Et pour moi, ben voilà, ce jeu intellectuel n'est pas nécessairement dans une forme de complexité ou dans une forme de c'est plutôt la personne qu'on peut parler, c'est qu'est-ce que l'intelligence puis qu'est-ce que l'intellectualité. Mais quand même, pour moi, il y a cette espèce de cliché-là que oui, dès que c'est complexe, intellectuel, alors que pas du tout, ça peut être très complexe et juste très confus aussi en même temps. Donc, moi, c'est cette espèce peut-être de ce cliché-là qu'il faut peut-être abattre, je crois, selon moi, là.
C'est très drôle parce que je trouve qu'on a souvent tendance à amalgamer aussi ce côté péjoratif-là de l'intellectualisation à la poésie, alors que justement, tu sais, c'est un art qui est très senti, très sensible.
Tu as complètement raison. On pense que c'est compliqué. Je pense que c'est l'inverse, en fait. J'avais un autre professeur, il s'appelait Jean-Noël Pontbriand. Lui, il me semblait inverser les concepts d'abstrait et de concret. Il disait que la poésie, c'est l'art le plus concret. Parce que on s'adresse directement justement aux émotions ou à une intelligence émotionnelle, alors que un concept où là on utilise soit une métaphore ou une image pour illustrer un propos, un concept est abstrait. Et dans ce sens-là, la poésie normalement, et puis c'est ce que puis on rejoint ce que Jean-Pierre Masse disait dans un épisode précédent, c'est l'art dans lequel les mots ont un accès le plus direct à l'émotion.
Tu sais, en tant que journaliste, j'ai interviewé des centaines d'artistes. Je ne sais pas combien je suis rendu dans ma vie, là, mais depuis 18-19 ans, j'ai interviewé vraiment beaucoup d'artistes. J'ai remarqué que moi, personnellement, je décroche des fois quand je discute avec l'artiste et je me rends compte que l'artiste ne reste que dans le concept. Tu sais, quand on parle de son œuvre ou de ce qu'il vient de faire, que ce soit un album, que ce soit un livre, un film. Et des fois, je me rends compte que je suis sur un artiste qui est vraiment, je dirais pas purement, mais vraiment très, très, très dans le concept et pas beaucoup dans le message, l'émotion. Et c'est là où moi, je trouve, OK, donc là, on est dans un trait qui est, entre guillemets, intellectuel. Il approfondit une théorie, un concept. Et c'est correct, ça peut être super le fun, ça. Mais on est dans quelque chose qui est très... Moi, pour moi, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'abstrait. Parce que là, on est dans un jeu de concept. Et si tu n'es pas initié à ces concepts-là, ben ça se peut que l'œuvre te passe à côté et tu ne puisses pas saisir, en fait, ce qui est devant nous. Alors, moi, c'est là que je trouve qu'il y a un jeu qui est beaucoup plus intellectuel que dans l'émotion, si on veut.
Mais tu vois, là, tu expliques mieux que moi l'idée de Jean-Noël Pontbriand, à savoir un concept est abstrait exactement pour ces raisons-là que tu viens d'énumérer. Mais dans ce que Michael a dit, il y a deux choses. Donc, il y a l'œuvre et il y a le discours sur l'œuvre. Et donc, j'imagine que tous les artistes que tu as interviewés, Michael, ils parlaient de leur œuvre. Et donc, peut-être que l'œuvre était très concrète, au sens pombrien du terme, mais que leur discours sur l'œuvre était très abstrait et conceptuel. Et donc, c'est là où il y a une autre nuance à apporter.
Mais c'est vrai que c'est deux choses aussi. Et puis je pense qu'un artiste ou les critiques ou peu importe le public, on peut passer des heures à analyser une œuvre et là on peut tomber dans un jeu de concepts, de théories, d'influences, de d'écho, etc. Mais moi, je trouve toujours ça dommage quand je discute avec un artiste puis que je veux qu'il me présente son œuvre ou sa création et qu'il ne reste que dans le concept. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose pour savoir un peu où est-ce qu'il va. Puis bon, à la limite, je comprends parce que des fois, je tombe sur des artistes puis ils me disent ils veulent que leur œuvre parle d'elle-même. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer mon œuvre. C'est mon œuvre qui va faire son travail. Puis ça se défend très bien. Mais à ce moment-là, on va discuter d'autres choses peut-être dans l'entrevue, puis on va peut-être garder les analyses pour un truc qui est beaucoup plus dans l'analyse de l'œuvre et non pas dans la présentation de l'œuvre, qui sont pour moi deux choses un peu différentes. Mais je trouve ça quand même toujours un peu dommage des fois quand voilà qu'on s'arrête simplement au concept. Parce qu'il me semble que dans toute œuvre, il y a un message quand même quelque part, il y a une intention. Et si on n'est pas capable de parler de cette intention-là, ben moi, je me pose la question, est-ce parce qu'elle n'est pas claire? Et ça se peut, des fois, on ne sait pas non plus tant que ça, notre intention. Mais je trouve ça toujours particulier quand on n'arrive pas à parler de cette intention-là. Même si elle n'est pas claire, on peut quand même essayer d'en discuter.
Moi, je sais que j'ai tendance, des fois, c'est un de mes défauts, puis je me le suis fait dire long en large pendant que je faisais ma maîtrise, que je surintellectualise souvent les choses. J'ai tendance à aller trop dans cette idée-là de vouloir parler du concept, de vouloir parler de tout ça. Puis j'aimais bien la distinction, Simon, que tu faisais justement entre l'œuvre puis le discours qu'on porte sur l'œuvre. Je pense que des fois, puis je parle pour moi, là, des fois, il peut y avoir une certaine... des fois, le poète, c'est un poète, il écrit, il est là pour justement mettre ses tripes à la table, créer des œuvres et tout ça. Puis des fois, il n'est pas nécessairement outillé ou il n'est pas prêt à parler aussi de son œuvre. Puis ça fait des fois qu'il va avoir un discours sur son œuvre qui pense être le bon, mais finalement, il n'ira pas nécessairement dans la bonne direction, il n'en parlera pas nécessairement parce qu'il va rester trop dans ses considérations-là et tout ça. Je sais que des fois, ça m'arrive moi-même, fait que je prends le blâme. Mais tu sais, il y a quelque chose de... Il y a aussi ce fardeau-là, des fois, qu'on met sur les ben, qu'on met maintenant de plus en plus, où est-ce que le poète, l'artiste est obligé aussi d'être son propre communicateur, il est obligé de parler de son œuvre, de défendre ses idées, tout ça, puis justement, il ne peut plus juste dire « ben voici, c'est mon œuvre et elle a ce qu'elle a à dire ». Puis je trouve que il y a quelque chose dans le métier d'auteur, le métier de communicateur, il y a quelque chose, je ne suis peut-être pas capable de l'expliquer clairement, mais c'est ça, l'auteur qui est chez lui, puis qui écrit, puis qui se questionne sur sa matière, puis après ça, la personne qui va à l'extérieur, puis qui va présenter son œuvre, c'est deux personnes distinctes, c'est deux métiers aussi, jusqu'à un certain point distinct, d'être capable de parler de ce qu'on fait.
Tout à fait, puis c'est vrai que ce n'est pas toujours évident non plus. Hein, puis moi, j'ai remarqué aussi en tant qu'intervieweur, tu sais, disons que je reçois un artiste parce qu'il sort un nouveau livre ou un nouvel album, peu importe. J'ai remarqué avec les années, je suis de moins en moins dans cette intention de « OK, donc sur 15 minutes d'entrevue, je vais en consacrer 10 à seulement parler de ce nouveau livre-là. » Et j'ai plus envie « OK, je vais parler avec l'artiste. » Et puis, je trouve à ce moment-là, ça permet encore plus de comprendre l'artiste, mais de comprendre l'œuvre aussi, parce que en connaissant mieux l'artiste, ben on en vient à mieux connaître son processus, même si on n'a même pas abordé le processus, même si on n'a même pas abordé l'idée de la création, ben, en discutant avec la personne, ben, ça nous aide déjà à mieux comprendre pourquoi la personne en est rendue là dans sa création. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de faire cela comme approche en tant qu'intervieweur que comme je faisais à mes débuts, où on dirait que j'insistais pour « OK, on va analyser chaque page. » Non, non. Je vais parler avec toi, cher artiste, puis c'est comme ça qu'on va comprendre un peu, puis qu'on va mieux saisir, puis qu'on va savoir où est-ce qu'on s'en va, tu sais.
Cette idée-là du message versus l'émotion versus l'acte de créer, qu'est-ce qui doit sortir de l'acte de créer? Est-ce que c'est une communication, une émotion? Rien du tout, tu sais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais c'est important après ça de cultiver le message qui peut se dégager autour de l'œuvre, tu sais, justement quand on va en représentation de soi, là. Je pense pas que ce soit tout noir ou tout blanc, là, tu sais, je pense pas que nécessairement en disant, en opposant message et émotion, on trouve une bonne réponse, là. La plupart des réponses se trouvent toujours dans des nuances de gris, de toute façon.
Il faut pas penser au centre d'achat vidé de toutes les adolescences brunes Tim Hortons, jaune, McDo, au néon de nuit qui éclaire des halls impériaux, peuplé de forêts fantômes qui se magasinent de toutous des polars pour passer le temps. Il faut pas penser aux selfies de cabines d'essayage supprimées, condamnées à un néant obsolète, où ils vont être intimidés à l'infini par les VHS de Pilates à 2$ de feu chez Zellers, par les œuvres d'art détruites pendant l'Holocauste. Et l'alarme qui sonne pas. Il faut pas penser aux coussins qui disent « La vie est belle, namasté » à des peaux mortes en suspension. Il ne faut pas penser aux urinoirs qui flushent sans arrêt. Ça se lave du vinaigre des garçons en rêvant aux chutes Niagara. à une descente héroïque en tonneau, virilité absolue assortie de mort certaine, sa slave en rêvant, aux touristes en poncho glow in the dark sur le ferry qui immortalise toute cette eau. Et l'alarme qui sonne toujours pas. Il faut pas penser au congélateur mal fermé où de la crème glacée se gâche un 7 janvier au soir. Demain, aucun milkshake pour les amoureux fissurés, aucune petite molle pour les familles fissurées, pas de flotteur, pas de yogourt glacé, pas de deux boules à saveur immorale comme gummy bear ou barbe à papa ou profanation des terres autochtones. Seuls les sprinkles survivront. Et enfin, l'alarme sonne. Les manteaux, les chocolats rose-corps, les iPhones, les matelas réversibles, les best-sellers de croissance personnelle, les shampoings, les vadrouilles de concierge, les pailles en plastique, les ampoules brûlées, vertes, jaunes, bleues, la graisse de four à pretzel s'évade, virevolte dans les rues, comme appelée par Blanche-Neige jusque chez nous. Le centre d'achat au complet, à la fenêtre de ma chambre, sous les lampadaires orange, à se demander ce qu'on peut bien avoir à se gueuler dessus.
J'ai l'impression, d'après comment je connais vos œuvres ou comment je connais donc Eric en tant que travailleur culturel aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté d'entrer en communication avec l'autre. Puis, tu sais, par exemple, Michael, avec tes essais qui sont sur des sujets très, très précis, mais c'est toujours en étant très accessible. Puis, Eric, si on pense à certains projets que tu as menés, par exemple, comme travailleur culturel, on voit qu'il y a vraiment des ponts qui sont faits avec les autres. Je me demandais comment ça vous habitait dans votre création, cette envie-là de créer des ponts.
Moi, je trouve ça super important de créer des ponts, puis même je veux créer des ponts envers des gens qui ne savent même pas qu'ils ont envie d'emprunter le pont. Là. Je trouve ça super important, puis je pense que ça vient d'une espèce de clash dans ma vie parce que je viens d'un milieu qui... Je sais, il n'y avait pas de bibliothèque chez moi. Là. Si j'ai pu lire des autant de livres dans ma vie, c'est parce que j'allais dévaliser la bibliothèque municipale, tu sais. À chaque fois que moi j'écris des textes, que ce soit en journalisme ou que ce soit lorsque je fais mes essais ou lorsque des fois j'essaie de faire des styles, je sais pas à quel point moi je prétends faire de la poésie, mais en tout cas lorsque je m'essaye de faire quelque chose dans le genre, dans ma tête c'est super important de me dire « ok, je veux que toutes ces personnes avec qui j'ai grandi, qui n'ont pas un intérêt naturel vers ça, aient envie, puissent s'y retrouver, puissent être touchées, puissent comprendre. » Et pour moi c'est super important ça. Je veux créer ces ponts-là parce que malheureusement, j'ai remarqué des fois, il y a des gens qui osent pas s'aventurer juste à cause de la forme ou juste à cause du sujet. Puis je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui les toucheraient si c'était soit présenté différemment ou si on leur présentait différemment. Parce que des fois aussi, disons-le, là, moi, des fois, je vois des œuvres qui, je sais, pourraient toucher tellement de gens, mais par la façon dont on la présente au public, ça a l'air super abstrait ou compliqué ou difficile. Puis je suis comme, mais non, t'as juste à te laisser toucher, puis ça va être bien correct, tu sais.
Moi, j'aime ça m'amuser avec différents types de d'art, puis voir avec qui je vais parler à chaque fois pour aller rencontrer les gens. C'est ça, mais je sais que j'ai toujours aussi de mon côté ma petite création que je me dis, ben écoute, ça existe, c'est quasiment un journal intime, là, c'est d'un côté, puis si jamais personne lit ça, ça va parce que il y a une part de cet art-là que je fais strictement pour moi, pour dans une catharsis très poète maudit, très cliché, mais de laquelle aussi j'ai besoin versus ces ponts-là que des fois je suis comme, bon, ben ok, ça suffit, il faut que je sorte dehors puis je prenne une bouffée d'air.
Que moi aussi, cette espèce d'idée aussi de, tu sais, toute l'idée de l'inclusion puis de juste discuter avec les autres, moi des fois, juste pour m'inspirer, ben je lance une discussion avec des gens puis je suis comme, ok, parle-moi de ton point de vue puis je me gave de plein de points de vue qui sont différents de mon vécu. Et ça m'inspire énormément, puis ben ça transparaît après dans mes textes parce que ça m'a nourri, puis je l'ai imprégné, puis j'ai envie de le partager aux autres. Donc, c'est aussi une façon de créer une espèce de courant ou de lien, je trouve, entre les communautés, moi, puis qu'après ça, moi, je le retourne dans les communautés. Donc, ça, je trouve que ça crée un beau cercle, en fait.
Puis tu parlais de surprise, puis de se surprendre. Je pense qu'une des plus belles surprises que j'aime avec la poésie, c'est justement quand je me rends compte, je me dis, mon Dieu, je dois être tout seul à penser ça. Puis là, t'as comme, hein, t'as du monde finalement qui se sent d'accord, puis qui s'y raccroche. Tu sais, ça doit arriver aussi avec tes articles, puis tes essais que tu fais, puis ta poésie aussi. Tu sais, fait que je me dis, c'est ça, moi, ça, c'est une des belles surprises, je trouve, qui advient de l'écriture en général.
Une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.